joue s'illumine. Judith remercie Rémi pour son bulletin galvanisant. Puis nous déchantons. Au fait, c'est grave pour la planète s'il fait chaud? S'il ne pleut pas, il faut tempérer nos enthousiasmes. J'apostrophe ma conscience. J'ouvre le journal pour m'autoriser une lueur d'espoir. Ça vaut peut-être mieux parce qu'on a grelotté sous la pluie ces dernières semaines. Alors je lis. Les apparences ont été trompeuses. Ces dernières semaines, s'il a fait frais, voire localement froid, pour la saison depuis la mi-avril, le mois a pris dans sa globalité, a été plus chaud que la moyenne. Aïe, aïe, aïe. Allez, j'allume la télévision. Au hasard, le service public. Nous battons un nouveau record de chaleur, preuve du réchauffement climatique. C'est comme ça tous les jours sur France 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, bonne nouvelle, nos athlètes qui n'auront pas à se surpasser lors des Jeux Olympiques soufflent puisque nous battons chaque jour des records. En vérité, je vous le dis, je ne veux plus de votre soleil, monsieur Rémi André, c'est trop risqué. Un peu de pluie, s'il vous plaît, mais pas dans le Pas-de-Calais ni au pied des châteaux de la Loire à cause des inondations. De grâce, pas de rafraîchissement en mai car les agriculteurs craignent pour leur récolte. Oui, de la neige, ça on veut bien, les stations de ski ont souffert, mais s'il vous plaît, pas plus de 5 cm en plaine, car les routes seront impraticables. Ah oui, j'oubliais, s'il était possible de dispatcher un peu le froid sur toute l'année, car si on gèle en janvier, la facture d'électricité va exploser, ça plombe la politique économique. Ouf, ces tendances, quelle que soit leur direction, convergeront forcément vers un seul constat. Le réchauffement de la planète entraîne un dérèglement climatique. Personne n'en disconvient. Mais pourquoi les médias proposent désormais un journal météo et climat regroupé? Notre joie ensoleillée rompt systématiquement quand le bilan climat tonne. Pouvons-nous, entre deux ondées, nous anticycloner sans sombrer dans la dépression? C'est promis, je milite pour la préservation de la planète, mais en ce pont du mois de mai, sans contrepétrie, laissez-moi embrasser Rémi André et Judith et les vraies voix, car c'est magnifique, le soleil est là.
Le soleil est là et Rémi André est encore là aussi. Une petite réaction à ce coup de gueule, Rémi.
Ah mais j'ai bien fait d'écouter en fait, hein, puisque je suis tout à fait d'accord avec ça. À chaque jour suffit, non pas sa peine, mais à chaque jour suffit son beau temps.
Merci à tous les deux. Allez, c'est parti. Vous avez la parole de Félix Mathieu. Alors Félix Mathieu, vous avez la parole. L'avant-projet de loi sur le logement abordable suscite une certaine méfiance des associations.
Oui, un projet de loi censé apporter des réponses à la crise du logement, mais dans les faits, l'association Droit au Logement redoute une forme de clientélisme avec une plus grande latitude donnée aux maires pour les attributions de logements sociaux. Le DAL redoute aussi que les HLM soient de plus en plus remplacés dans les faits par des logements pour cadre sup, des logements locatifs intermédiaires. Pour en parler, nous sommes avec justement le porte-parole et fondateur du Droit au Logement. Bonsoir Jean-Baptiste Hérault.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Si on commence par les attributions de logements sociaux, on a déjà entendu effectivement à l'antenne des maires réclamer d'avoir davantage la main. Ils disent qu'ils connaissent leur commune, le terrain, leurs habitants, que c'est eux qui sont sollicités directement par ceux qui ont des difficultés. Pour vous, ça c'est une fausse bonne idée ?
Bon, on est sur des logiques un peu de préférence communale. Hein. Bon, c'est-à-dire le maire, lui, raisonne au niveau de son territoire. L'État, lui, raisonne plutôt au niveau de l'intérêt général. Donc, si vous voulez, évidemment, une personne qui est sans abri, qui a pas de lieu d'attache, si vous voulez, qui va la reloger si c'est pas à l'État. Bon, vous comprenez. Mmh. Et après, ça, on a des risques de clientélisme. J'irais un peu poussé, quoi. C'est-à-dire, on va aider, on va loger plutôt des copains, et on l'a vu, ça. Enfin, c'est une pratique relativement courante, parce que les maires ont déjà un peu de contingent, un peu de droit de réservation sur les logements sociaux. Ils ont 20% à peu près, hein, des attributions. Donc, il y a du clientélisme, c'est incontestable. Ça peut même, parfois, mais ça, c'est pas la partie où on a vu des maires qui ont été poursuivis pour corruption, hein. Bon, voilà. C'est, on pense, nous, que, si vous voulez, c'est plus l'intérêt général qu'il faut jouer plutôt que l'intérêt communal, un peu limité, je veux dire, aux frontières de la commune, quoi.
On a par ailleurs cette obligation pour le moment de 20 à 20% de logements sociaux sur les communes. Cet avant-projet de loi reviendrait vraiment là-dessus, selon vous, ou ça se veut plus un assouplissement ?
Ah bah, c'est un assouplissement, mais oui, c'est un assouplissement. Un assouplissement, mais pour créer du logement, on va dire, pour 4 sup. Le LLI, ce qu'on appelle le logement locatif intermédiaire, c'est pour les 4 sup. C'est niveau de revenu, par exemple 4 000 € pour un célibataire, près de 8 000 € pour un couple avec un enfant. Vous voyez, on est sur des niveaux de revenus très élevés, quoi. On ne comprend pas, d'ailleurs, on soit aujourd'hui dans une situation telle que le gouvernement va aider les classes sup à se loger. C'est-à-dire, on marche sur la tête. Une politique du logement, elle permet aux cadres et aux classes moyennes de se loger normalement dans le secteur privé, d'accéder à la propriété ou de louer des logements dans le secteur privé. Or, aujourd'hui, le logement est devenu tellement cher que c'est impossible. Et plutôt que d'aller chercher à réguler, à faire en sorte que le logement redevienne accessible aux jeunes, à la population, aux personnes qui changent de ville parce qu'ils ont trouvé un job plus intéressant ou je sais pas, si vous voulez, là on est sur bah on va aider les quatre sup à se loger, ça marche pas. Et c'est un peu cette idée là de les passer un peu aux chausse-pieds dans les logements dans les villes qui sont déficitaires en termes de logements sociaux.
Vous ne trouvez pas, Jean-Baptiste Hérault, que ces logements intermédiaires étaient une bonne chose pour les gens qui ne pouvaient pas bénéficier de logements sociaux et qui n'avaient pas assez pour accéder au marché libre? Est-ce que ça n'était pas une bonne idée?
C'est une idée qui existe déjà depuis longtemps, si vous voulez. Hein. Mais je vous dis, les niveaux de revenus, au-delà duquel on ne peut plus accéder à un logement locatif intermédiaire, c'est un logement intermédiaire, comme vous dites, c'est pour un couple avec un enfant, 8 000 € par mois, près de 8 000 € par mois à Paris et dans les communes autour. Vous voyez quand même là, si on ne peut pas se loger avec quand on gagne ça, excusez-moi, il y a un problème, quoi.
Oui, vous voulez pas se loger au détriment du HLM, quoi.
Oui.
Clairement, oui, parce qu'il y a des aides. Ah, puis je vais vous dire une chose. On va poursuivre les locataires en logement social parce qu'ils ont des revenus qui dépassent les plafonds. Bon, ok. Mais on va même les expulser s'ils dépassent les plafonds de plus de 20%, les plafonds de revenus. Hein. Mais par contre, pour les locataires et les lits, rien du tout. Pas de sanctions. Si on a un patrimoine, rien ne les empêche d'accéder à un LLI. Pas de surloyer si on dépasse les plafonds de loyer du LLI. Non, il y a deux points de mesure.
Pardonnez-moi, il y a Loïc Le Floch-Prigent qui veut réagir.
Je crois que puisqu'on parle d'intérêt général, il faut regarder quelle est la situation du logement aujourd'hui et de la fabrication de logements. Donc on est tombé avec une industrie qui a perdu 20 à 30% de ses marchés, et il n'y a plus de création de logements. Alors ça, c'est l'intérêt général, c'est quand même qu'il y ait du travail pour les gens et qu'ils puissent justement avoir des salaires qui leur permettent d'avoir le logement. Si jamais on a paupérisé l'ensemble du secteur de la construction à 30%, c'est qu'il y a un problème. Donc il faut changer quelque chose. Mmh. Alors, est-ce que ce qui ne marche pas, on doit le poursuivre en disant, puisque ça ne marche pas, on continue? Et ce que est en train de montrer les papiers que je lis de manière régulière et qui émanent du gouvernement ou des institutions, c'est de dire qu'il faut changer quelque chose et il faut que les classes moyennes arrivent à se loger. Il faut que on regarde bien ce qui s'est passé avec le logement social, avec le fait que les logements sociaux sont maintenant passés aux enfants, aux petits-enfants, et ainsi de suite. Il y a un problème qu'il faut regarder, parce que nous sommes en train de plomber complètement notre industrie des travaux publics et du bâtiment avec une diminution du nombre de logements absolument catastrophique. C'est ça le sujet d'intérêt général pour moi.
Mmh. Ouais, mais ça c'est pas la faute des locataires HLM, excusez-moi, c'est pas la faute du logement social.
C'est la faute de quelqu'un.
Pardonnez-moi, messieurs. C'est passionnant, mais on va être obligé d'arrêter cet échange passionnant. Merci Jean-Baptiste Hérault. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes porte-parole du DAL, l'association du droit au logement. Merci pour votre témoignage.
Très intéressant. Cher Félix Mathieu.
Merci Félix Mathieu. Allez, 0826-300-300 si vous voulez réagir. Restez avec nous. On va revenir aussi dans un instant avec les vraies voix pour le tour de l'actu. À tout de suite.
Sud Radio Figeac.
103.8.
Sud Radio.
D'abord vos corps qui se séparent, t'es seul dans la lumière des phares, et t'entends à chaque fois que tu respires, comme un bout de tissu qui se déchire, et ça continue encore et encore, c'est que le début d'accord, d'accord. L'instant d'après, le vent se déchaîne, les heures s'allongent comme les semaines, te retrouves seule assise par terre, à bondir à chaque bruit de portière, mais ça continue encore et encore, c'est qu'avant. Les mêmes endroits, deux fois trop grands. T'avances comme dans des couloirs. Tu t'arranges pour éviter les miroirs. Mais ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Quelque chose vient de tomber sur les lames de ton plancher. C'est toujours le même film qui passe. Et toute seule au fond de l'espace, t'as personne devant. Personne. Faudrait que t'arrives à en parler au passé. Faudrait que t'arrives à ne plus penser à ça. Faudrait que tu l'oublies. Qu'il est de l'autre côté du pôle. Dis-toi surtout qu'il ne reviendra pas. Et ça te fait marrer les oiseaux qui s'envolent. Les oiseaux qui s'envolent. Les oiseaux qui s'envolent. Tu comptes les chances qu'il te reste. Un peu de son parfum sur ta veste. Tu avais dû confondre les lumières d'une étoile et d'un réverbère. Mais ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord.
Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair.
Sud Radio, c'est votre radio, parlons vrai. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour réagir, pour taper vos coups de gueule ou pour nous dire des trucs sympas, tout
et
simplement.
Il y en a
aussi,
ce soir. Hein.
Oui, ça bouge. Ça bouge dans le studio. Allez, c'est le tour de table de l'actu, des vraies voix.
Regardez les actualités régionales.
Tour à tour. Fino.
On pourrait faire des choses.
On discute crois. Jamais business à table.
Je crois qu'on avait le tour des sujets.
Il me demande mon avis sur l'actualité. Et je suis
de demi-tour.
Le tour de table.
De l'actualité.
Nous commençons par Philippe Bilger. Le coup d'éclat de François-Xavier Bellamy, c'est comme ça que vous le définissez, ça s'est passé à Sciences Po, va-t-il le faire monter dans les sondages pour les européennes, Philippe ?
Oui, je ne peux pas me déprendre d'une sorte d'indulgence pour pas forcément les Républicains, pour François-Xavier Bellamy, qui est une personnalité que j'apprécie, intelligente, dont je ne pensais pas qu'elle pouvait être aussi naturellement courageuse sur le plan physique. Et je trouve très remarquable la promotion qui a été faite. J'ai cru comprendre que on a, chez les Républicains, on a eu la certitude de faire un coup d'éclat. Et je me demandais, mais apparemment, le résultat est négatif, si ce coup d'éclat pouvait faire monter, même par l'anecdote que ça représente, la liste des Républicains, un peu comme François Bayrou à une certaine époque, en tapant ce petit qui voulait le voler, avait connu un frémissement positif. Et si ça n'est pas le cas, Eh bien, je crois qu'en réalité, je devrais accepter que le problème de la liste des Républicains est que leur espace politique, pardon, pour la banalité, est très restreint et qu'ils ne parviennent pas, malgré la mue que François-Xavier Bellamy
tente d'opérer. Oui, qui a fait irruption, hein, véritablement, voilà, à Sciences Po.
Je crois que peut-être devrais-je me résoudre à l'impasse politique que représente cette liste, malgré la qualité de son principal dirigeant.
Loïc Le Floch-Prigent, c'est une impasse.
Oui, moi j'ai compris que c'était une impulsion personnelle et non pas un calcul.
C'est un calcul.
Non.
Si, enfin,
non.
Si, on, pas être d'accord.
Si on en croit ce journal contestable mais irremplaçable qu'est Le Monde.
Voilà, eh bien, moi qui ai regardé ce qui s'est passé et qui ai parlé à l'intéressé, je pense que c'est une impulsion. Et que ça n'était pas préparé. Voilà. Donc Le Monde a peut-être tort pour une fois. C'est pas la première fois qu'il aurait tort.
Nous avons peut-être la personne pour trancher, Nicolas Corato.
Oh là là, entre François-Xavier Bellamy et nous et mes camarades, je ne sais pas. Moi, je trouve que d'abord le courage politique de François-Xavier Bellamy, il est plus à décrire. Donc le courage même de porter ses positions, y compris dans son propre camp, on l'a vu lors des précédentes élections, même si ça n'a pas de résultats positifs concrets en termes de score électoral. Il faut un tout petit peu nuancer peut-être le courage physique. Bon, on est rue Saint-Guillaume, c'est des étudiants de Sciences Po qui campent. Il y a plus dangereux que ça, monsieur le procureur. J'imagine comme délinquants potentiels dans les rues de Paris.
Quelques excités.
Oui, quelques-uns. Et dans cette séquence, ce que je trouve intéressant aussi, c'est leur réaction à eux. C'est-à-dire que finalement, une fois que monsieur Bellamy a passé la première ligne de colibé et d'insultes et qu'il est allé discuter, finalement, il y a un débat qui a pu s'engager, qui ne réglera rien, qui n'avancera pas, qui ne fera pas avancer les positions des uns et des autres, mais on montre aussi que dans ce pays, on peut aussi débattre, y compris en pleine rue. Après, sur les Républicains, je pense que le problème de M. Bellamy, c'est qu'il a un positionnement qui est très personnel, qui ne reflète pas du tout une ligne politique qui serait celle de son parti. C'est certainement le bon candidat pour porter une liste aux européennes, mais à mon avis, c'est une impasse politique pour les Républicains.
Bon, il a tranché la conclusion de Philippe.
Le compte, c'est qu'il est proche de Glucksmann. À titre personnel, ouais, on a l'impression que ce sont quasiment des clones.
Ouais. Allez, votre tour de table de l'actu à vous, Nicolas Corato, concerne les Français qui sont accros à l'aérien. Les vols low cost ont repris carrément leur rythme d'avant Covid. Et alors, malgré la diminution des dessertes aériennes à l'intérieur des incantations écologiques, les Français n'ont jamais autant pris l'avion pour des très, très courts séjours.
Oui, vous vous souvenez, le monde d'après, après le monde d'avant.
Oui.
Vous vous souvenez, le Covid, la nouvelle société qui allait émerger, nos habitudes de consommation qui allaient changer du tout au tout, notre idée de mieux penser la planète, les échanges internationaux. Finalement, 4 ans après, les Français utilisent plus les vols low cost pour des courts séjours qu'avant le Covid.
Ça coûte moins cher que le train ?
Ah, ça coûte certainement moins cher que le train. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que moi, ce que je trouve intéressant dans l'aérien, c'est que c'est un secteur où c'est l'offre qui crée la demande. C'est-à-dire que on va pas aller responsabiliser ou culpabiliser les gens qui prennent l'avion sur telle ou telle compagnie low cost pour aller à Venise, à Florence, à Barcelone le temps d'un week-end. C'est pas eux qui ont créé les liaisons aériennes low cost. Ils les utilisent d'une certaine manière, ils ont raison de le faire puisqu'elles sont là. Ce qui m'intéresse, c'est que malgré toutes ces incantations, malgré aussi ces débats qui peuvent être très pédagogiques sur ce que coûte en termes d'émissions un trajet low cost sur un si petit séjour, est-ce que c'est bien raisonnable d'aller passer 3 jours à Venise ? Moi, je pense que oui, ça l'est.
Ah bah oui.
Français qui prennent les vols low cost.
Est-ce que c'est raisonnable ? Est-ce que je devrais m'interroger un peu plus ? Oui, certainement. Est-ce qu'on me pose cette capacité de m'interroger ? C'est quoi l'alternative ? Quelle est l'alternative en termes de temps passé ?
Quelle est l'alternative
en termes de déplacement ?
Non, mais c'est à Barcelone en vélo.
C'est un vrai sujet. Donc, Ce que je trouve intéressant, c'est ce monde d'après qui ressemble terriblement au monde d'avant, malgré tout ce qu'on nous avait prédit. Comme quoi, il faut rester très humble par rapport aux évolutions des sociétés. Et puis peut-être aussi dire que c'est pas toujours les citoyens qui sont responsables ou coupables, c'est aussi ceux qui organisent l'offre économique et qu'une certaine manière, on attend peut-être d'eux un peu plus de pluralisme et un peu plus de capacité.
Alors Philippe Bilger, est-ce que vous prenez les low cost, vous, pour aller à Venise ou à Barcelone ?
Ça fait longtemps que j'ai pas voyagé comme ça, mais non, en général, comme je voyage rarement, contrairement au lieu enchanteur que visite Nicolas régulièrement, je prends plutôt des lignes régulières pour une autre raison, c'est que j'ai une épouse qui a une peur panique de l'avion.
D'accord.
Et donc, mon Dieu, si en plus je la mettais dans un avion... tout à fait valable, mais qui pourrait laisser penser qu'il est à la merci du moindre souffle de vent, j'aurais des inquiétudes.
Le voyage à Venise est inimaginable.
En train, c'est possible. Voilà, il y a le train de nuit pour Venise maintenant. Loïc Lefebvre-Prigent.
Je suis philosophiquement complètement en désaccord avec la façon dont on voudrait dire aux gens voilà ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que pour moi, les gens feront ce qu'ils peuvent faire avec les moyens dont on dispose. Et par conséquent, en tant qu'industriel, je dis, moi, ce que je veux, c'est une énergie abondante, bon marché et souveraine. Et l'essentiel pour moi, c'est d'arriver à une consommation sans gaspillage. Et ce n'est pas de dire aux gens, ne gaspillez pas. Il faut que nous, industriels, chercheurs et techniciens et industriels, nous arrivions à avoir des bonnes solutions compte tenu de ce que les gens veulent. Et on ne peut pas leur dire « vous là, vous ne voulez pas ». Par exemple, on leur dit
et on conclut là-dessus.
Attention, ouais. Le plastique c'est dangereux, prenez pas le plastique. Ah, surtout il faut arrêter le plastique. Stupide. Le plastique
va augmenter. On a fait l'émission dessus, c'est super dangereux. Hein.
Ouais. Va doubler dans les 5 prochaines années dans le monde.
Ça c'est pas une
Pourquoi
très bonne nouvelle. Hein.
Parce que c'est important pour la santé, parce que c'est les alternatives n'existent pas. Bon. Eh bien, si jamais j'ai envie d'aller à Venise et si je prends une alternative train, ça ne me coûte plus cher, petit 1. 2. C'est plus long et j'ai pas de raison de ne pas prendre l'avion qui c'est comme ça. C'est comme ça qu'on prend le problème. Donc je suis philosophiquement contre la manière dont les choses sont présentées aujourd'hui.
Loïc Lefebvre-Prigent, juste un tout petit teasing sur ce que vous allez nous raconter à votre tour dans un instant.
Que vous voyagez en business class, non ? Ah non, pardon.
Vous nous dites qu'il faut produire plus et donc travailler plus. Hein.
Absolument. C'est ça le sujet pour moi.
Voilà. Et on vous attend.
Oui, j'espère que
c'est bien votre sujet.
Parce que comme on est au mois de mai et que la plupart du temps les gens foutent rien, la preuve.
Allez, c'est parti.
On est trois malheureux qui vivons
vous
là alors que tous les autres sont sur la place.
Merci.
Voilà. À tout de suite.
Vous n'oubliez pas notre coup de projecteur à 18h41. Pensez-vous qu'un accord soit possible entre Israël et le Hamas à l'avenir ? Vous dites non à 87%. On va en débattre. À tout de suite.
Sud Radio Aurillac.
101.
Sud Radio. Cold, I get cold when you don't go slow, but I know you want more. You need me.
melting. I won't freeze you while my heart is melting. I'm not wrong.
Sud Radio.
J'aime tes vins de Bourgogne qui me racontent des histoires. Des petites piquettes qui collent et sentent bon le terroir. Je m'enroule dans ta manche, je rêve de tes tropiques. J'aime tellement tes dimanches, ta campagne et tes criques. Chez toi on se sent libre, égal et fraternel. Et même quand tu m'enivres, tu m'accroches à tes prunelles. Tout le 14 juillet, tu brilles de mille feux. On est tous aux aguets, les petits, les grands, les vieux. Chaque fois que je veux partir, voyager, voir du pays, je reviens pour ton sourire. Ma France, tu m'as tout appris. On peut faire le tour du monde, visiter Vienne ou Florence, aimer les brunes ou les blondes. On ne fait jamais le tour de France. On ne fait jamais le tour de France. J'aime tes petites places, ricard et puis pétanque. Soir à tes terrasses ou sirop à la menthe. T'as le goût de la fête, tes rêves parlent fort. T'as tellement de facettes et tellement de décors. Chez toi on ne s'ennuie jamais, t'as ton petit caractère. Quand on te marche sur les pieds, tu lèves le poing en l'air. Unis on est plus fort, même quand on se fait la guerre. On s'engage et alors on reste solidaire. Chaque fois que je veux partir, voyager, voir du pays, je reviens pour ton sourire. Ma France, tu m'as tout appris. On peut faire le tour du monde, visiter Vienne ou Florence, aimer les brunes ou les blondes. On ne fait jamais le tour de France. On ne fait jamais. Sans chez soi, un petit bout de terre. C'est bien joli la Bretagne, et c'est bien bon le Finistère. Et quand l'Alsace te gagne, tu reviens pas en arrière. Chaque fois que je veux partir, voyager, voir du pays, je reviens pour ton sourire. Ma France, tu m'as tout appris. Jamais le tour de France. La-pa-la-pa, on ne fait jamais le tour de France. La-pa-la-pa.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair.
Le tour de table de l'actu continue et c'est votre coup de gueule, Loïc Lefloc-Prigent. Vous nous dites qu'il faut produire plus et donc travailler plus, surtout qu'on a beaucoup de ponts au mois de mai.
Bah, c'est-à-dire que au mois de mai, soudain, pour un industriel que je suis, les gens disent, voilà. Alors j'ai un jour de vacances, alors je le prends là, j'ai un RTT, là, et puis finalement, si jamais on n'y prend pas garde, on ne produit pas pendant 15 jours. Or, pendant le même temps, on me dit, et à juste titre, écoutez, c'est pas grave, parce que pendant ce temps-là, l'industrie du tourisme, elle va...
Oui, parce que ça fait fonctionner, en ce moment, il y a plein de monde
Mais les gens ne travaillent pas non plus, parce que le nombre de gens qui ferment partout, parce qu'ils n'ont pas de personnel, est extrêmement élevé. Vous avez un grand nombre de restaurants qui ferment à Paris actuellement, vous en avez aussi dans toutes les régions de France, parce qu'il n'y a pas de personnel. Tout le monde dit, là par exemple, tel jour, je ne le fais pas, parce que je n'ai pas de personnel. Donc je pense que il y a un problème des Français avec le travail. Alors je sais bien qu'il y a les loisirs, mais il faut que nous arrivions à retrouver le sens de l'épanouissement au travail et le fait que nous avons besoin de travailler. Et d'autant plus que là, tout à l'heure, on avait le logement en disant, un salaire, comment avoir un logement avec le salaire qu'on a, etc. Mais il faut observer quand même que nous avons produit de moins en moins les 30 dernières années et que la France est en voie de paupérisation. Autrefois, l'instituteur était un notable. Aujourd'hui, c'est un monsieur qui gagne le SMIC plus. Donc on a paupérisé la France. Pourquoi ? Parce qu'on a travaillé moins et qu'on ne produit pas suffisamment. Et les gens qui s'en sortent, c'est les gens qui produisent plus. Alors comment produire plus ? Comment revenir à l'esprit que le travail, certes, c'est difficile, certes, ok, bon, mais c'est...
En payant bien les gens, déjà, peut-être, non ?
Pratiquement pas pénible. Mais oui, on paye bien les gens si jamais on produit plus, si jamais on n'a pas paupérisé la France. Là, lorsque on a augmenté le prix de l'électricité, non pas pour les particuliers ou très peu, mais pour les entreprises, on a payé 3 à 7 fois le prix de l'électricité d'avant. Et qui était paupérisé, les entreprises. Et c'est pendant ce temps-là qu'on va augmenter les salaires. Comment peut-on ? On peut pas.
Réaction.
Donc c'est ça. Ouais. Le sujet, c'est arriver à produire plus et comprendre comment on produit plus et on travaille plus. C'est ça le sujet de la France aujourd'hui.
Philippe Bégère.
Est-ce que Loïc, et c'est pas du tout une question ironique, c'est un peu la campagne de Sarkozy où ça n'a rien à voir ?
Non, parce que...
Sur 2007.
Non, c'est... Sarkozy
travailler
disait...
Travailler plus pour gagner plus.
Travailler plus pour gagner plus. Oui. Là, aujourd'hui, c'est travailler plus et produire plus pour ne pas vouer. C'est-à-dire que les entreprises françaises, aujourd'hui, meurent parce que nous ne sommes plus compétitifs, parce que la seule manière d'être compétitif, c'est de payer moins nos salariés et que c'est insupportable. Moi, je suis humilié de voir que je ne peux pas augmenter mes salariés plus. Mais je ne peux pas le faire. Autrement, je disparais. C'est ça le sujet que nous avons. Et ce n'est pas le sujet des grandes entreprises dont on parle tout le temps et qui disent, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, les grandes entreprises, elles, lorsqu'elles ont un problème en France, elles ont des produits à l'étranger. Et après, elles compensent et finalement, elles font des bénéfices. Je parle des 100 000, 200 000 ou 300 000 entreprises françaises qui sont dans tout le territoire et qui sont en train d'avoir des difficultés. Tu te rends compte qu'il y a la semaine dernière, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit « j'en peux plus ». Je dis « parce que vous êtes vieux ». Il me dit « oui, je suis vieux, j'en peux plus, je suis fatigué, chef d'entreprise. Je suis prêt à vendre tout, à disparaître, j'en peux plus, et je ne peux pas conseiller à mes enfants de reprendre la voie. » Quel âge il a ? 53 ans. Dans l'année 80. J'ai dit « je suis tombé de l'armoire ».
Nicolas Corato.
Oui, le travail est un sujet éminemment politique, et qui fait débat, et d'ailleurs... Le gouvernement actuel, le président de la République actuel, a mis le travail au cœur de son langage politique. C'est un mot qui revient...
Langage surtout.
Oui, langage surtout, mais c'est un mot qui revient de manière importante. Il y a un point quand même que vous avez peut-être omis de préciser, c'est que...
Et on terminera là-dessus.
Il s'est passé une chose très nouvelle dans le monde du travail français. C'est que, pour l'instant, on va voir si ça dure, le marché de l'emploi est devenu favorable non plus aux patrons, mais aux salariés dans beaucoup de secteurs. Ce sont eux qui décident où est-ce qu'ils vont travailler, à quelles conditions et pour quel salaire. Et donc, il y a aussi, il faut que le patronat s'en rende compte, une inversion du rapport de force dans certains secteurs de l'économie qui interroge la manière dont le patronat se considère et se détermine. Pour reprendre la fameuse phrase de Joe Biden à qui on demandait « Mais alors, comment vous pouvez faire pour reprendre ?» Joe Biden avait répondu, c'était il y a un an, « Pay them more ».
Voilà. Payer allez, merci Nicolas Corato. Excusez-moi, monsieur.
Pardon. Allez, on avance.
Le coup de projecteur des vraies voix. Hein, c'est dans un instant. Je vous rappelle le sujet. Israël et le Hamas sont sortis de la table des négociations de cessez-le-feu au Caire. Les échanges ont été entravés par les propositions controversées hein, du Hamas, dont un échange de prisonniers impliquant les otages israéliens les plus fragiles et les corps des décédés. Sans compter Benjamin Netanyahou qui maintient sa volonté d'une incursion à Rafah contre laquelle les USA affirment leur opposition.
Alors, la question que nous vous posons sur le compte X de Sud Radio. Pensez-vous qu'un accord soit possible entre Israël et le Hamas à l'avenir? Nous aurons comme invité dans un instant Caroline Yadan, députée Renaissance et secrétaire du groupe d'amitié France-Israël. Bonsoir Caroline Yadan.
En un mot,
avant de vous retrouver dans un instant, est-ce qu'il y a des signes encourageants pour trouver une issue?
J'aimerais faire preuve d'optimisme, mais malheureusement, je suis inquiète, toujours très inquiète par la situation.
On y revient dans un instant.
Tout comme nos auditeurs, hein, vous votez sur X et vous dites non à 87%. On revient tout de suite pour ce débat, tout de suite.
Écoutez Sud Radio Rouen en DAB+.
Sud Radio.
Voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair.
Nous sommes avec nos vraies voix du jour, Philippe Bilger, Nicolas Corato et Loïc Le Floch-Prigent. Et tout de suite, c'est le coup de projecteur des vraies voix.
Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix.
Les représentants d'Israël et du Hamas ont quitté le Caire après 2 jours de négociations. Benjamin Netanyahou maintient sa volonté d'une incursion à Rafah contre laquelle les USA, les États-Unis réaffirment leur opposition. Et selon I-24, la proposition de cesser le feu du Hamas en 3 phases de 42 jours incluait la première qui devait échanger les otages israéliens les plus fragiles contre des prisonniers palestiniens dans un ratio de 1 israélien pour 33, sans possibilité de veto sur la liste de la part d'Israël. Et dans les 33 que l'organisation terroriste rendait, les corps des décédés. Alors, on sait aussi que la négociation est compliquée, donc on se le demande. Est-ce qu'elle est encore possible, cette négociation ?
C'est la question que nous vous posons au 0826 300 300 et puis sur le compte X de Sud Radio. Pensez-vous qu'un accord soit possible entre Israël et le Hamas ? Parlons vrai, Joe Biden, les Occidentaux, l'Égypte, la communauté internationale, CSC, les derniers pour parler, ont donc échoué. Caroline Yadan, députée Renaissance et secrétaire du groupe d'amitié France-Israël, est avec nous. Nous allons vous retrouver dans un instant. Vous connaissez le principe. Un petit commentaire de chacun de nos trois vraies voix.
Je me souviens d'un débat il y a quelques jours où, à propos de la prise de contrôle du Rafah du côté palestinien par Israël, j'avais dit que c'était un petit peu dommage au moment où apparemment le Hamas avait accepté un cessez-le-feu. Et heureusement, Elisabeth Lévy m'a précisé les modalités du cessez-le-feu qui était proposé par Hamas, et évidemment j'ai compris à ce moment-là qu'il était forcément inacceptable compte tenu du processus. Et donc je suis très inquiet, enfin comme beaucoup de gens, sur la possible négociation entre Hamas, un mouvement terroriste dont les représentants politiques ne sont pas sur place, qui ne veulent à l'évidence pas négocier, et de l'autre côté un Netanyahou qui est dans un jusqu'au boutisme qui ne laisse guère espérer pour
l'instant. Loïc Leflotte-Prigent, s'il vous plaît.
Je crois que le problème est relativement simple. Il y a d'un côté des otages qui ont été pris par une organisation terroriste, et de l'autre un État qui existe et à qui l'ensemble de la communauté internationale doit dire effectivement la priorité c'est la libération des otages. Donc moi je considère que aller leur dire vous n'avez pas le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit de faire ça est stupide, parce que le sujet pour eux c'est de savoir si l'organisation terroriste leur libère les otages ou pas, et derrière si cette organisation terroriste continue à dire qu'il faut qu'ils disparaissent, que l'État disparaisse. Ils peuvent pas. La négociation est rendue impossible par la façon dont le Hamas prend les choses. C'est pas du tout pas de la façon dont Israël prend les choses. Après, on peut discuter que fait Netanyahou. Simplement, il y a des otages qui ont été pris. Alors, j'ai été, moi, kidnappé à un moment. J'ai été otage, de cette façon. Et par contre, je suis du côté des otages.
Nicolas Corato.
Non, moi, ce qui me marque dans l'évolution, c'est aussi l'internationalisation qui est en cours, notamment de ces négociations. Et on voit bien que on cherche d'autres interlocuteurs et que les grandes puissances sont en train de se mêler, y compris de sujets souverains pour Israël. On voit quand même la pression que met Joe Biden, y compris sur ces négociations de cessez-le-feu. Et donc la question qu'on peut se demander pour demain, c'est que restera-t-il à la fois de la légitimité de Monsieur Netanyahou et aussi de la capacité du Hamas à représenter le peuple palestinien qu'il n'a jamais représenté, hein, il faut le dire, le Hamas n'est pas représentatif du peuple palestinien. Donc il y a aussi un sujet politique et diplomatique qui est en train de se nouer, les grandes puissances internationales considérant qu'il faut arriver à un terme dans ce conflit.
Alors Caroline Yadan vous a écouté précisément. Caroline Yadan, vous nous avez fait part de votre inquiétude et nous l'avons tous finalement. Et qui a la clé finalement pour trouver une issue ?
Écoutez, moi ce que je remarque c'est que je n'ai jamais été kidnappée et Dieu merci, mais je suis quand même du côté des otages. Et je crois quand même qu'il faut arriver à comprendre la raison pour laquelle, moi j'ai l'impression que la pression s'exerce davantage du côté d'Israël que du côté du Hamas. Je ne vois pas cette pression constante concernant le Hamas, je n'entends pas assez de condamnation de ces tunnels qui pourrait protéger la population civile, 700 kilomètres de tunnels. Je n'entends pas de condamnation de ces boucliers humains. Je n'entends pas de condamnation de ces roquettes qui continuent de tomber sur Israël, tirées de Gaza par le Hamas. Je n'entends pas assez de pression qui s'exerce par rapport au Hamas sur cette volonté de destruction systématique qui émane de sa charte des Juifs et de l'État juif. Et je n'entends pas, enfin, j'ai commencé par ça, assez de pression par rapport à la libération des otages. Quand j'entends que l'accord éventuel qui apparemment a été rejeté prévoyait de libérer un Israélien mort ou vif, un otage, entendons les mots. C'est hallucinant. On est en train de parler d'un accord éventuel qui libérait un otage mort ou vif contre 33 terroristes palestiniens, c'est-à-dire qui sont passés par des tribunaux israéliens et qui ont été condamnés pour actes de terrorisme. En d'autres termes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on donnait un blanc-seing au Hamas pour éventuellement tuer les otages qui sont encore malheureusement à Gaza, encore les femmes, encore les enfants, encore les hommes, et notamment les deux enfants. Voilà, c'est assez hallucinant et ça participe de cette banalisation du mouvement du Hamas et cette banalisation de l'islamisme, cette banalisation du terrorisme, cette banalisation qui consiste à mettre sur un même plan un État démocratique et l'État et un mouvement terroriste avec cette rhétorique, ce narratif qui est toujours le même, qui est un narratif de calomnie, qui est un narratif mensonger et qui est un narratif qui, en définitive, n'a pour seul objectif que de prôner la destruction d'un État qui devient l'État paria, c'est-à-dire l'État juif, et de l'effacer de la carte.
Caroline Yadan, il y a quelque chose qui me marque aussi, c'est cette utilisation du mot génocide hein, qui commence à être galvaudé, puisque finalement un génocide, c'est l'intention de supprimer un peuple de la terre, c'est une intention claire. Donc évidemment, c'est important de dire que c'est compliqué quand même de parler de génocide dans le cas d'un État qui répond à un attentat terroriste.
Alors, génocide, c'est vraiment devenu le mot favori de tous ces ignares, de ces idiots utiles, mais aussi de ces idéologues qui reprennent la rhétorique islamique, hein, comme tous les LFistes, par exemple. Et oui, il faut redéfinir les mots. Il faut reprendre la définition des mots. Et comme vous l'avez dit, Judith, un génocide, c'est la volonté systématique, planifiée, froide, calculée de détruire en tout ou partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux, c'est-à-dire d'exterminer un peuple du fait de son identité. C'est exactement.
Et là, la question qui est posée dans ce cas-là,
voilà.
Et là, la question. Oui, effectivement. Et la question qui est posée dans ce cas-là, ça concerne aussi les habitants de Gaza. Alors, question et réaction, Philippe Bilger.
Madame la députée, je suis très largement en accord avec les deux points que vous avez évoqués, et bien sûr sur le génocide, vous en avez donné la définition totalement exact. Mais une fois qu'on admet votre point de vue et votre dénonciation légitime, qu'est-ce que vous attendez tout de même de la politique mise en œuvre par ce Premier ministre israélien ? J'entends bien tout ce que vous dites, mais que doit-il faire ?
Alors, je ne sais pas ce qu'il doit faire. Ce que je sais, c'est que si j'avais été en Israël, j'aurais manifesté tous les samedis contre ce gouvernement qui comporte des ministres, même si ce n'est pas dans le cabinet de guerre, des ministres qui sont des ministres d'extrême droite et que je réprouve totalement. Hein,
alors, une petite info là-dessus, il y a des manifestants qui ont une nouvelle fois, excusez-moi, je vous coupe deux secondes, bloqué lundi les principales routes de Jérusalem et de Tel Aviv, hein, justement contre Netanyahou, après les contre-propositions du Hamas. Allez-y, Caroline.
Voilà. Mais ce que je souhaite dire, parce qu'on était sur le terme de génocide, on ne peut pas mettre sur le même plan une opération militaire qui a pour objectif de mettre hors d'état de nuire un mouvement terroriste qui se cache, tout à l'heure je l'ai dit, dans les écoles, dans les hôpitaux, et dont l'objectif ultime est la destruction des Juifs et de leur État. Cette opération militaire, en fait, ce qui est intéressant lorsqu'on regarde l'histoire aussi, c'est qu'on s'aperçoit que la défense des nazis au procès de Nuremberg participait de la même rhétorique, participait du fait de mettre les morts sur un même plan sans penser aux intentionnalités. Mmh. Et que disaient les nazis à l'époque ? Oui, il y a eu la Shoah, oui, il y a eu 6 millions de juifs de tués, mais en définitive, il y a eu aussi énormément, il y a eu des millions de tués dans le cadre des bombardements.
Ouais. Et ça, ce sont des propos qui sont d'ailleurs repris aujourd'hui par des extrémistes, effectivement.
Louis, juste pour conclure.
On doit conclure.
Moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment les gouvernements, y compris le gouvernement français, ne met pas l'accent prioritairement sur les otages et la libération des otages et sur le fait que le Hamas est un mouvement terroriste. Je ne comprends pas pourquoi il y a cette espèce de peur du Hamas. Or, le Hamas est un groupement terroriste qui veut supprimer les Juifs et supprimer Israël.
Et l'Occident aussi, en y passant. Hein.
Message passé.
Nicolas
Merci,
Corato,
les vrais voix.
Très rapidement.
Oui, très rapidement. C'est toujours compliqué d'essayer de rester rationnel et de décrire, par exemple, en termes rationnels, l'accord qui aurait pu avoir lieu quand il s'agit de discussions entre un État démocratique reconnu internationalement. Qu'il y a des règles démocratiques de fonctionnement et une organisation terroriste. Il faut aussi faire attention. La raison, parfois, s'arrête aux portes,
Merci
de la terreur.
Vous tous. Merci à vous tous.
Caroline Yadan, je rappelle que vous êtes députée Renaissance et secrétaire du groupe d'amitié France-Israël. Merci beaucoup de votre participation.
Et je voudrais juste ajouter vraiment un grand bravo à un très, très grand monsieur de la radio qui s'appelle Benoît Gouthorpe, qui est notre réalisateur. Nous, on peut faire ce métier.
Il part vers de nouveaux horizons.
Il part vers de nouveaux horizons. On peut faire ce métier grâce au professionnalisme de ces gens. Et en plus, c'est un homme absolument délicieux. On t'embrasse.
Bravo Benoît, merci.
Dans un instant, les infos.
Sud Radio Narbonne.
104.7.
Sud Radio.
Je préfère avec mes silences, pour tout recommencer en quelques pas de temps. Et s'il ne reste plus rien du tout, et que tout tourne, tourne, tourne autour de nous, je t'écrirai une chanson pas comme les autres. Et si tout je remettrai l'onde sur mes paupières. Je te souris sans larmes et sans prières. Et s'il ne reste plus rien, oh, du tout, et que tout tourne, tourne, tourne autour de nous, je t'écrirai une chanson pas comme les autres. Et si tout tourne, 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 ce sera la nôtre. Et si le temps change, un claquement de doigts.
Sud Radio.
Same.